On a déjà entendu beaucoup de choses, et ce qui a été dit est riche et parlant, donc je vais dire moins, mais je veux quand même prendre ce temps pour expliquer un petit peu le cœur de notre foi. Qu'est-ce que c'est de croire réellement en Christ et de suivre Jésus comme notre maître? Mais avant, j'aimerais prier pour nous. Père Céleste, nous te remercions parce que tu es Dieu. Nous te remercions parce que tu es vivant et nous te louons parce que tu agis encore dans nos vies. Merci pour ces quatre personnes qui ont parlé de ce que tu as fait dans leur vie. Et combien tu as été bon. Nous voulons simplement nous joindre à eux en te remerciant ce matin. Et nous voulons aussi te prier, Seigneur, que tu nous permettes de nous concentrer pendant ces quelques moments à l'écoute de ta parole, que cette parole vivante puisse retentir dans nos cœurs, faire écho chez nous. Que chacun et chacune nous puissions répondre à ton appel sur notre vie. Au nom puissant de Jésus, nous te le demandons. Amen. Si vous pouviez demander une chose à Dieu, qu'est-ce que vous demanderiez? Attends. Je ne demande pas qu'est-ce que vous poseriez comme question à Dieu, mais qu'est-ce que vous demanderiez? Si vous pouviez recevoir une chose de la part de Dieu, une bonne santé pendant longtemps peut-être? La réussite dans la carrière, votre carrière, un nouveau pasteur peut-être, vivre dans la maison de l'Éternel tous les jours de votre vie, ou peut-être plus de temps libre, ou l'opportunité de te marier. La chose que nous demanderions à Dieu, en fait, révèle beaucoup sur nous-mêmes et sur ce que nous voulons recevoir et accomplir dans notre vie. Les personnes qui ont été baptisées aujourd'hui ont toutes demandé quelque chose à Dieu. Et aujourd'hui, nous allons entendre un encouragement de la part de Jésus à demander à Dieu. Je vais le lire, il se trouve dans la Bible, il va aussi être affiché. Pour ceux qui sont au balcon, vous n'allez peut-être pas voir ce qui sera affiché. C'est en Matthieu chapitre 7, verset 7. C'est un encouragement et une promesse. Et puis, je vais vous aider à comprendre ce que cela implique, ce que nous devrions demander. Écoutez ce que dit Jésus en Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. On lit ça et on a tout de suite très content. On a l'impression d'être Aladdin qui a découvert la lampe dans laquelle il y avait un génie et qui savait qu'il n'avait qu'à frotter et le génie allait sortir et lui faire des promesses extraordinaires. Il pouvait avoir tout ce qu'il voulait accomplir. L'impression qu'on peut avoir tout ce qu'on veut. Mais c'est stupide. C'est qu'on n'a pas vraiment regardé attentivement ce que cela veut dire parce que nous avons tendance à penser directement au cadeau qui nous ferait plaisir pour notre confort personnel. Ah, alors si je demande pour une voiture, ben je vais la recevoir. Ou si je cherche une femme, je vais en trouver. Ou si je frappe à la porte d'un employeur, ben je veux croire que cette promesse veut dire que je reçois tout ce que je veux. Mais Dieu n'est pas un génie dans une lampe. Dieu est juste, Dieu est grand, Dieu est saint. Dieu est bon, et c'est par là que nous devons commencer. Comprendre que Jésus n'est pas le réalisateur de nos rêves, Dieu n'est pas une machine à sous, il est Dieu, et il est personnel, et il veut une relation avec nous. Alors commençons par la bonté de Dieu. On va être plus précis sur ce que nous devons demander, chercher et frapper ce matin. D'abord, il faut demander la bonté de Dieu. Cette offre de demander, l'on vous donnera, est dite par Jésus, pendant qu'il parle d'un Dieu bon et généreux. C'est comme un papa. Jésus parle des papas qui sont bons et savent donner de bonnes choses à leurs enfants. Dieu le Père donne de bonnes choses à ceux qui le demandent. Étant notre Créateur, il sait ce qui est meilleur pour nous. Et parce qu'il est bon pour nous, il ne va pas nous donner n'importe quoi. Il va être comme ce papa qui dit « Non, tu dois arrêter de manger des bonbons. Non, je ne vais pas te donner une quatrième gaufre. Non, tu dois arrêter de jouer sur la Switch maintenant et aller travailler. Tu as 30 ans. Dieu sait qu'il y a des limites et c'est parce qu'il est bon qu'il nous refuse certaines choses. Mais il va nous donner vraiment de bonnes choses. Beaucoup voudraient acquérir des possessions, mais Jésus nous met en garde. Il dit « La vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance de ses biens. » Dieu pense pas à ce que nous aimerions recevoir, mais plutôt à ce qu'il nous faut. Il sait ce dont nous avons besoin, même avant qu'on le demande, dit-il en Matthieu 6, 8. Dans la prière que nous appelons le « Notre Père », Jésus nous a donné des instructions sur comment demander et ce qu'il faut demander. Et voici un des exemples quand il dit cela. Il dit « Demandez à Dieu, pardonne-nous nos offenses. » Voilà une bonne chose qu'il convient de demander. Une bonne chose que Dieu, dans sa bonté, veut nous donner, le pardon de nos offenses. Il veut pardonner nos fautes, remettre notre dette, parce que nous avons tous, chacun et chacune, une dette spirituelle énorme devant Dieu et qui doit être enlevée. Le seul moyen de rayer cette dette, c'est que Dieu lui-même nous pardonne. Et donc nous devons demander pardon à Dieu. Il y a une chose que tous les baptisés d'aujourd'hui ont en commun. Ils ont vu qu'en eux-mêmes, il n'y avait pas la solution. Plutôt, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème entre eux et Dieu. Ben, vous direz, ben, aucun d'eux ne semble être une personne méchante. C'est vrai selon nos critères. Mais Dieu est saint et juste et parfait. Et selon lui, aucun d'entre nous n'est bon. Ni les baptisés, ni moi, ni vous. Heureusement, le Seigneur agit dans sa bonté. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Que Dieu soit bon envers nous. Qu'il ne nous traite pas selon ce que nous méritons, mais selon un autre principe, sa miséricorde, sa grâce imméritée. Demandez à Dieu et vous recevrez sa bonté. Il donne de bonnes choses. Alors pourquoi ne les demandez-vous pas? Pourquoi ne demandez-vous pas ces bons cadeaux au lieu de demander pour des choses vaines? Alors, bien sûr, c'est vrai que aussi, étant chrétien, nous pouvons demander à Dieu d'autres choses. La prière consiste à dire nos besoins devant Dieu et reconnaître que nous avons parfois besoin de pain quotidien ou d'autres choses. Oui, nous pouvons demander cela à Dieu. Mais tout vient de lui et tout ce qu'il nous donne est pour notre bien. Et c'est selon son temps, selon sa décision, selon sa sagesse et pas selon nos envies, simplement. Demandez la bonté de Dieu. Demandez que Dieu, dans sa bonté, vous traite par sa bonté en étant prêt à vous pardonner. Mais deuxièmement, cherchez le royaume de Dieu. Cherchez et vous trouverez. Ce n'est pas un slogan pour les objets perdus. Vous savez que quand j'étais écolier, je perdais énormément de choses. Je perdais très facilement mes objets. Et je me souviens que quand j'étais à l'école, j'allais parfois au local des objets perdus, juste pour voir si j'avais perdu quelque chose. Ah tiens, mon bonnet, hein, je l'avais perdu. Là encore, non, il faut considérer les déclarations de Jésus avec les autres choses qu'il a dites. Qu'est-ce qu'il demande de chercher? Il dit, juste avant, au chapitre 6, « Cherchez d'abord, ça veut dire en priorité, le royaume de Dieu et sa justice. » Voilà ce qu'il faut chercher. Alors le royaume de Dieu, il est où? Est-ce qu'on doit chercher sur une carte et dire, voilà, c'est où le royaume de Dieu? Je veux aller habiter là-bas? Non, le royaume de Dieu est là où Dieu règne en roi. C'est dans le ciel, le royaume de Dieu, dans son domaine. Mais le règne de Dieu est aussi là où nous reconnaissons Jésus comme roi, nommé par Dieu. Et nous voulons que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Alors cherchons à vivre sous le règne de Dieu. Et nous trouverons. Nous connaîtrons celui qui est au centre du plan de Dieu. Nous connaîtrons celui qui est roi selon Dieu. Jésus est présenté comme roi tout au long de sa vie. Quand il est né, les gens se sont rassemblés en disant « Où est celui qui vient de naître, le roi des Juifs ?» Et quand il est mort, le gouverneur Pilate a mis une petite affiche sur la croix en disant « Jésus, le roi des Juifs ». Début à la fin, il était le roi des Juifs. Et pendant sa vie, il a pu rencontrer des gens qui ont été persuadés que Jésus était le Christ, le Messie, le roi choisi par Dieu. Mais il n'était pas celui que les gens attendaient dans un sens. Ils espéraient autre chose. Même s'il était de la lignée royale, de celui qui avait reçu la promesse de Dieu d'un trône éternel, Jésus a surpris les uns les autres par comment il était. Né dans une famille modeste, il a vécu dans une vie humble. Il méritait le meilleur, bien entendu, mais il a vécu avec les pauvres. Jésus s'est identifié avec nous, au point de mourir. Mais ça ne devrait pas nous faire penser que Jésus était un échec. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à réussir, des stars de musique. Regardez The Voice, un qui réussit, mais tous les autres qui sont là, qui essayent, n'arrivent pas, ne sont pas sélectionnés. Pour les sportifs, c'est vrai aussi, nous voyons ceux qui réussissent. Mais il y a tant de sportifs qui ont échoué parce qu'ils ont été jugés ne pas être à la hauteur. Est-ce que c'est comme ça avec Jésus, qu'il a voulu être le Messie, il a voulu être le roi choisi par Dieu, mais il n'était pas à la hauteur? Non, au contraire. Il a annoncé d'avance qu'il mourrait sur la croix. Il a annoncé d'avance pour qu'on comprenne aussi pourquoi il allait mourir sur la croix. C'était pour payer notre dette, nous sauver de nos péchés. Vous voyez, Dieu est tellement bon qu'il a fait en sorte que le paiement énorme pour nos fautes envers lui, pour notre dette spirituelle envers lui, c'est lui qui paye. Et maintenant, Jésus, ayant accompli son œuvre à la croix, payant pour nous, il est ressuscité, il est vivant et il règne et son royaume n'aura pas de fin. Jésus est roi. Donc pourquoi ne le cherchez-vous pas? Nous ne croyons pas en un Christ qui est mort, mais qui est ressuscité. Et la Bible dit ceci, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. » Heureusement, Jésus est vivant. Son travail est fait. Il n'est plus resté au tombeau. Beaucoup de gens l'ont vu vivre après sa mort. Et c'est lui qui nous assure que nos péchés sont enlevés et que la vie éternelle et la résurrection est possible pour nous également. Alors cherchez le royaume de Dieu. Troisièmement, frappez à la porte de Dieu. Je comprends qu'ici, il ne dit pas quelle porte. Et on pourrait se dire, voilà, frappez à la porte et elle sera ouverte, mais à quelle porte? Dans notre vie, beaucoup de portes se ferment, n'est-ce pas? Alors nous ne devons pas deviner, parce que là aussi, il y a quelques phrases plus loin, Jésus dit ceci en Matthieu 7, verset 13. « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et on a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Voyez-vous, selon Jésus, il y a deux portes. Et nous devons choisir attentivement notre porte. Une grande porte et une porte étroite. Et ces portes mènent à des sentiers différents. Voici une photo que j'ai prise en Écosse. Un chemin large à gauche, très large, et de l'autre côté, un chemin étroit, périlleux, difficile. La surprise, je pense, quand on écoute Jésus, est que le chemin large est le chemin de la perdition, et que l'autre chemin, étroit, peu le trouve. Peut-être que vous avez imaginé le contraire, que la majorité des gens, étant bons et bien disposés, allaient vivre et avoir la vie éternelle et qu'il n'y aurait que quelques personnes qui seraient sur le mauvais chemin et qui seraient condamnées par Dieu. Quelques exceptions. Mais non. Jésus, qui connaît la réalité et qui vient de la part de Dieu lui-même pour nous dire ce qu'il en est, nous a avertis. Il nous prévient. Et donc, choisissez soigneusement votre porte. Ces jeunes gens qui ont été baptisés ont tous décidé pour la porte étroite. Et beaucoup de jeunes ne choisissent pas la bonne porte. Est-ce que c'est possible d'arriver à 50 ans, 60 ans, et de se dire « j'ai pris la mauvaise décision, j'ai choisi le mauvais chemin, je suis sur la mauvaise voie, je vais revenir en arrière » Oui, c'est possible. Oui, c'est possible, tout à fait. Mais il y aura un jour où ce sera trop tard pour prendre cette décision. C'est bien de prendre cette décision quand on est jeune. On peut la prendre à différents moments de la vie. Mais ceux qui ne frappent jamais à la porte de Dieu auront des regrets. Voilà, les portes s'ouvrent, c'est magnifique. Dans une histoire que Jésus raconte, il va revenir sur ce thème de la porte. Et Jésus avertit. Voici ce que dit Jésus en Luc 13. « Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous qui êtes dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Vous voyez, quand Jésus dit « Frappez et la porte vous sera ouverte », c'est une invitation. C'est un ordre pour nous. Allons-y, frappons à la porte. Tant que Dieu est prêt à ouvrir, mais il y aura aussi un jour quand ce ne sera plus possible. Vivre dans l'insouciance sur le chemin large, peut-être que c'est une vie facile pour le moment, mais ça ne peut pas durer longtemps, il y aura des conséquences. Par contre, si vous frappez à la bonne porte, si vous imitez la démarche de Kevin et des sœurs qui ont partagé aujourd'hui, de dire à Dieu, est-ce que tu voudrais de quelqu'un comme moi? Eh bien, la réponse est, ben, Jésus est mort pour toi. Entre sur le chemin étroit. La porte s'ouvre aujourd'hui. Alors, si Dieu ouvre sa porte, pourquoi n'y frappez-vous pas? Il est généreux. Demandez le pardon et vous le recevrez. Cherchez à être accepté dans son royaume, il vous sera accordé. Frappez à la porte, il vous accueillera. Vous connaîtrez Dieu et votre vie commencera, une nouvelle vie qui commencera pour toujours. Le royaume est ouvert, le pardon est disponible. Mais il faut demander. Ne croyez pas comme Kevin que c'est juste pour les autres, que c'est bien d'entendre ça, mais pour les autres. Ou pour les vieux, ou pour plus tard. Il ne faut pas penser comme ça. Ne croyez pas cela. Ne croyez pas que c'est réglé d'office. C'est vous qui devez demander. C'est toi qui dois te demander. C'est toi qui dois faire ta demande. C'est toi qui dois parler à Dieu, de cœur à cœur. Alors, quelques mots pour terminer, juste aux uns et aux autres qui sont dans la salle, pour les baptiser. Merci pour votre exemple. Continuez sur la voie. Vous avez choisi la voie. Vous êtes sur le bon chemin. Continuer sur cette voie. Pour l'Église, réjouissons-nous. Nous sommes là dans la joie aujourd'hui. Ben, réjouissons-nous de ce que Dieu a fait. La même chose dans leur vie que dans notre vie. Quelle grâce il les a appelés et ils ont répondu à l'appel. Et à ceux qui ont été interpellés, qui savent aujourd'hui que leur vie a pris un mauvais tournant et que si ça continue comme ça, ils vont être loin de Dieu et en dehors de la porte qui sera fermée. Je vous demande de reconnaître là où la demande, la recherche et la porte a été la mauvaise. J'ai demandé ce que je voulais. J'ai cherché à faire ma volonté, à créer mon royaume. J'ai frappé à la mauvaise porte. Alors Seigneur, je te demande pardon et accepte-moi dans ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Si tu demandes cela, Dieu est prêt à te répondre. Il est prêt à t'accepter. J'aimerais bien parler avec vous à la fin du culte. Je serai là à la sortie, je serai prêt à vous entendre aussi, vos réactions par rapport à tout ça. Et je suis reconnaissant pour votre écoute. On va continuer avec Patrick et le dernier chant.